contretemps. Une émission de Canal Academy,
Priscille Lafitte
et ses invités.
Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes ensemble pour une heure en compagnie de l'historienne Claude Dulon. Bonjour Madame Dulon.
Bonjour.
Également dans ce studio, Laurence Acache. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Je vais commencer par vous présenter vous, Laurence, un petit peu plus court que Madame Dulon. vous êtes normalienne, licenciée en histoire et en philosophie et spécialisée en cinéma tout dernièrement. Et par ailleurs, vous êtes militante féministe, vous intéressez à l'histoire du féminisme.
L'histoire et la... L'engagement, bien évidemment.
L'engagement
aujourd'hui. Féministe, voilà, aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Comme ça, vous avez pu deviner, de l'histoire des femmes, puisque notre invitée Claude Dulon est historienne, plus précisément archiviste paléographe. Claude Dulon, vous avez consacré la plupart de vos recherches à l'étude du XVIIe siècle. Et parmi tous vos ouvrages, qui sont nombreux, dont beaucoup ont été récompensés par l'Académie des sciences morales et politiques et par l'Académie française, le lecteur trouvera différents livres sur les femmes et leur place dans la société. Vous avez notamment contribué à une histoire mondiale des femmes, publiée en 1991. Citons aussi, comme autre ouvrage, La vie quotidienne des femmes au grand siècle et le livre Amoureuse du grand siècle. C'est justement sur cet aspect de votre œuvre que vous avez écrit en tant que femme, votre parcours, votre façon de parcourir le XXe siècle qui nous intéresse aujourd'hui. D'abord, Madame Dulon, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous en êtes venue à écrire sur les femmes? Pourquoi vous êtes intéressée à... Parce que c'est quand même un thème récurrent dans vos œuvres, même si bien sûr vous parlez de plein d'autres aspects du XVIIe siècle.
Oui, remarquez, c'est pas venu tout de suite. J'ai commencé par des livres qui étaient des livres d'histoire pure, pas particulièrement... féministe. J'ai jamais été vraiment féministe, mais je suis d'une génération où, évidemment, les femmes sentaient quand même assez vivement leur manque de liberté. Je parle des jeunes filles, surtout. À partir du moment où on était mariées, d'une certaine façon, on était beaucoup plus libres. Mais il y a 50 ans, c'était vraiment... très, très rigide, c'était assez pénible. J'en souffrais pas trop parce que j'avais d'autres choses, j'avais mes études, j'avais quand même de bons amis, j'avais une mère assez compréhensive, mais tout de même, on peut pas imaginer le changement, le nombre d'interdits qu'il y avait, et je parle même pas du plan sexuel, parce qu'alors là, c'est une révolution qui s'est produite.
Et au niveau de vos recherches aussi, il y avait très peu de personnes qui s'intéressaient à l'époque aux femmes, particulièrement.
Il y avait eu beaucoup de biographies tout de même. Il y a toujours eu, même depuis le XIXe siècle, des biographies, mais sur des femmes de renom. Il y a eu des biographies sur des Duchesses, Longueville, Madame de Chevreuse... François Mauriac avait fait une espèce de sensation en écrivant un livre sur Blaise Pascal et sa sœur Jacqueline. Parce que on n'y pensait pas avant. On s'intéressait aux femmes d'exception. Il n'y avait pas grand-chose en effet sur les femmes en tant
que... Au quotidien.
Oui, en tant que sexe.
Alors qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser dans vos travaux de recherche d'historienne aux femmes ?
Eh bien parce que je me suis occupée particulièrement du XVIIe siècle et j'ai bien vu quel était le sort des femmes et les difficultés qu'elles éprouvaient à s'affirmer et que j'ai pensé qu'il fallait répondre. Et j'ai pensé qu'il fallait répondre enfin à ce manque, mais pas d'une façon tout à fait féministe. J'ai fréquenté des féministes puisque j'ai collaboré à un de leurs livres et je dois dire qu'elles m'agaçaient un tout petit peu parce que il faut pas pousser le bouchon trop loin quand même. Par exemple, au XVIIe siècle, ça paraît maintenant absolument démodé, mais la religion a été pour les femmes un grand moyen d'expression. Ça nous semble presque absurde de dire ça aujourd'hui.
Oui, paradoxal, oui.
Mais c'est énorme, ça a été énorme pour les femmes. C'était un des endroits où, d'une certaine façon, elles avaient une certaine liberté d'agir. Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de replacer les choses dans leur cadre.
Alors ça, effectivement, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que la laïcité a toujours été l'allié des femmes et que les religions ont plutôt en général imposé un régime patriarcal. Donc est-ce que vous pouvez expliquer de quelle manière les religions ont pu aider, en tout cas au XVIIe siècle, les femmes à s'exprimer? De quelle façon ça se...
Je ne dirais pas les religions, parce que je ne connais pas assez bien les autres.
Je
connais
dans le
surtout
du
le catholicisme.
Bien sûr.
Et il est évident que, par exemple, tenez, au XVIIe siècle, en Europe, il n'y a aucun effort d'instruction des femmes comparable à celui qu'a fait l'Église de France. Enfin, je n'en connais pas. Alors, bien sûr, on ne leur faisait lire que les bons auteurs, on ne leur mettait pas des auteurs salaces entre les mains, mais c'est quand même fantastique d'apprendre à lire et à écrire. Et c'était pas le cas avant le XVIIe siècle. Vous avez des jeunes filles, quand le grand Condé a épousé une nièce de Richelieu, elle avait 13 ans, on les a fiancées, puis on l'a mise à l'école parce qu'elle savait pas lire.
D'accord.
Donc vous voyez que même dans le plus haut milieu princier, on ne se souciait pas de l'éducation des filles. Et ça, c'est quand même une conquête de l'Église du XVIIe siècle, plus que des autres pays.
D'accord. Et Madame de Maintenon, par exemple, qui est la...
Ah ben Madame, il y avait des personnalités naturellement qui auraient trouvé le moyen de s'instruire autrement, mais c'est un très bon exemple, Madame de Maintenon, parce qu'elle a eu une enfance très dure, orpheline, sans argent, gardant presque les oies chez une tante par charité. Mais alors elle, il y a eu une volonté de faire au départ. Elle a été en pension chez les religieuses quelque temps. Et puis, elle a fait ce mariage qui paraît incroyable. Elle a épousé cet infirme qui s'appelait Scarron, en disant, paraît-il, il vaut mieux lui que le couvent. Comme elle n'avait pas d'argent, il n'y avait pas autre chose à faire qu'elle ne pouvait pas se marier convenablement par rapport à sa situation sociale. Et au fond, ce mariage avec Scarron, qui a probablement été un mariage blanc, a été extrêmement bénéfique pour elle parce que Scarron recevait tout le monde. Mmh. Scarron recevait ce que nous appellerions des intellectuels. Et là, elle a connu énormément de gens qui ont contribué à l'instruire. Ça, ça a été sa première grande chance.
Et lorsqu'elle eut le projet de fonder Saint-Cyr, donc justement pour l'éducation des jeunes filles. Elle eut le projet de fonder Saint-Cyr.
Eh bien, le projet de fonder Saint-Cyr est venu en grande partie de son enfance malheureuse.
D'accord.
Et puis surtout, elle s'est rendue compte que dans la noblesse, il n'y avait que les filles qui habitaient Paris, qui pouvaient s'instruire facilement. Qu'il y avait des provinces, vous savez, c'était quelque chose d'aller de Paris à Cahors au XVIIe siècle. Et elle s'est rendue compte que ces jeunes filles de la province qu'elle avait connues, d'abord, il faut imaginer qu'elles parlaient à peine français.
Oui,
elles parlaient un français patoisé. Et elle a donc créé Saint-Cyr pour faire venir des jeunes filles de toutes les régions et leur apprendre au moins le français.
C'était une petite révolution.
Essayer de les doter pour
qu'elles
ne soient pas toutes condamnées au couvent.
Saint-Cyr a été une petite révolution à l'époque, on n'imagine pas trop.
Elle a eu un très grand rôle. Oui, elle
entre l'influence de Fénelon et l'influence de Madame de Maintenon, à la fin du XVIIe siècle, ça a été un tournant.
Ah, ça a été un tournant, indéniablement. Sans oublier tout de même ces couvents de femmes de la première partie du siècle qui ont quand même fait un effort pour l'instruction des filles. Et puis il y avait les petites écoles, je parle des couvents, mais dans les couvents, elle est plutôt les gens chics. Mais il y avait des petites écoles, ça commençait pour les filles au début du XVIIe. On ne peut pas nier cet effort-là, encore que bien sûr, il était tourné beaucoup vers le catéchisme, etc. Mais en fait, c'est déjà quelque chose de pouvoir lire le catéchisme.
C'est vrai qu'on retient surtout du XVIIe siècle l'époque de la monarchie absolue. On connaît assez peu de choses sur la vie quotidienne, à part ce que vous avez vous-même écrit. Par exemple, on retient des femmes, les deux régences de Marie de Médicis et d'Anne d'Autriche. Et on se faisait la remarque avant de commencer l'émission qu'aucune autre femme finalement n'a gouverné avant Édith Cresson. Est-ce que le fait d'avoir eu des femmes au pouvoir, ça a pu changer quelque chose à cette époque? Ou c'était dissocié? Est-ce que le pouvoir était tellement dissocié du peuple qu'il n'y avait pas d'influence?
Écoutez, la seule que je connaisse comme régente, c'est Anne d'Autriche. Je ne suis pas sûre qu'Anne d'Autriche ait fait grand-chose pour l'instruction des filles. Personnellement, je ne crois pas qu'elle ait fait grand-chose. Mais le mouvement était, si vous voulez, déjà lancé, et en tout cas, elle ne l'a pas interrompu. Marie-Thérèse, la reine, n'en parlons pas, la pauvre, elle était sotte et elle n'a rien fait pour rien, la femme de Louis XIV. Mais Madame de Maintenon, c'est le grand modèle, oui. C'est elle, vraiment, qui a fait. Et après, ça s'est pas arrêté.
Plus que des reines, alors, c'est... Ça n'a pas changé le point de vue des
mais
hommes.
Mais Madame de Maintenon a été une quasi-reine, vous savez. Elle a sûrement été épousée par Louis XIV. Il n'y a presque aucun doute, parce que étant donné que Louis XIV était retourné à la religion sur le tard, l'Église n'aurait pas supporté qu'elle tienne cette place auprès de lui. Ils étaient mariés, on n'a pas l'acte, mais on en est à peu près sûr.
Est-ce qu'il y a eu des femmes qui avaient des revendications quasiment féministes? C'est des femmes... Qui souhaitait une évolution des choses et qui le faisait savoir.
Bah, il y a un cas célèbre, c'est Ninon de l'Enclos, oui. Mais alors évidemment, son mouvement a été un peu gâché par le fait qu'elle vivait, c'était une courtisane, donc elle vivait quand même de l'argent des messieurs. Mais son rôle a été réel. D'abord, elle était très instruite, elle s'est beaucoup instruit aussi au contact des hommes qu'elle fréquentait, au contact des salons. Il faut pas oublier dans l'instruction des femmes une chose qui a autant d'importance que l'Église, c'est les salons. Vous me parliez des reines, mais beaucoup plus que les reines, les femmes qui ont eu de l'influence sont les femmes d'un certain niveau qui tenaient des salons. Ça, c'est capital, les salons. Parce qu'il y a eu des salons bourgeois aussi, donc il n'y avait pas que les duchesses qui allaient dans les salons.
Et à ce propos, justement, sur les salons, on voudrait revenir sur les précieuses, qu'on a qualifiées, donc peut-être à tort, de ridicules, en tout cas que Molière a qualifiées de ridicules. Quelles étaient, si vous voulez, les motivations de ces précieuses dans ce siècle, dans ce XVIIe siècle? Est-ce qu'elles tenaient salon? Bon, je pense qu'elles tenaient salon également.
Oui.
Et qu'est-ce qui les différenciait?
Bon, d'abord, il faut probablement oublier Molière qui s'est beaucoup amusé à se moquer d'elle, et c'est très drôle quand on voit les précieuses ridicules ou les femmes savantes. Mais rien que le fait qu'il ait fait ces deux pièces prouve bien que le mouvement était très en marche, n'est-ce pas? Et ça, c'était des salons de femmes. C'est ça qui est très nouveau. Alors, vous me direz, ça n'était qu'un certain milieu. Évidemment, les paysannes étaient totalement exclues de ça. Elles étaient illettrées. Mais les femmes des villes, car il y a eu des salons bourgeois. Les salons n'étaient pas uniquement de la noblesse. Je dirais presque au contraire. C'était des salons bourgeois. Et d'ailleurs, enfin, les historiens ont étudié ça. Ça va avec une montée de la bourgeoisie, ces salons, indéniablement. Mademoiselle de Scudéry n'était pas noble du tout. On prenait un nom comme ça, mais...
Ah oui, d'accord. Ouais.
Oui, parce que
celle qui a publié sous le nom de son frère, hein, c'est ça?
Et oui, et puis finalement, elle a publié toute seule, parce que comme c'est elle qui faisait tout le travail, c'est un très bon cas, Mademoiselle de Scudéry. Ça a été une des premières femmes auteurs. C'est presque illisible aujourd'hui, mais il y a quand même là-dedans des morceaux très féministes où les femmes parlent de leur sort, s'en plaignent. Oui, c'est très important, Mademoiselle de Scudéry.
Ce débat reprend dans quelques instants. Nous marquons une toute petite pause.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie.
Nous retrouvons Priscille Lafitte.
Nous sommes en compagnie de Claude Dulon et de Laurence Akache, jeune militante féministe. Et Claude Dulon, je ne vous la présente plus, elle est historienne comme vous le savez. Nous parlions donc des précieuses ridicules. Laurence, vous avez une question là-dessus?
Alors, est-ce que vous pouvez me parler donc de ce mouvement des précieuses un peu plus précisément, c'est-à-dire de quelle manière avait-elle envie de changer les rapports amoureux? Et ce travail sur la langue, est-ce qu'il en était un des soubassements, justement, de ce changement des rapports amoureux ou pas?
Oui, c'est un mouvement très intéressant qu'on a tort de ne voir que sous l'angle de Molière, qui naturellement était un auteur comique et qui a trouvé là, par quelques exemples excessifs, le moyen de faire deux comédies très drôles, parce que les femmes savantes, c'est aussi un peu le même milieu de femmes dont il se moque. Mais c'est très intéressant, la préciosité. Ce sont des femmes qui, en effet, à leur façon, qui étaient faibles, ont lutté un peu pour des rapports moins brutaux entre les femmes et les hommes, et pour une certaine promotion de la femme par l'éducation. Et comme cette éducation, elles pouvaient difficilement la trouver en dehors du couvent, elles ont lancé une forme de mondanité qui a touché le milieu bourgeois. Ça, c'est important. Ça n'a pas du tout été... Le milieu bourgeois a été même beaucoup plus en avance que l'aristocratie dans ce domaine de la convivialité, je dirais. Parce que les filles étaient un tout petit peu plus libres. Enfin, la condition idéale, c'était d'être veuve au XVIIe siècle. Parce qu'à ce moment-là...
Plus que d'être célibataire, par exemple.
Mais célibataire, c'était presque pas possible d'être célibataire.
Il n'y a pas de statut de...
Vous étiez, il y avait Mademoiselle de Gournay, la vieille fille, mais tout le monde se moquait d'elle. Veuve, vous étiez... Il n'y avait pas de divorce. Veuve, c'était formidable, parce que vous, à ce moment-là, vous n'étiez pas comme une jeune fille, vous n'aviez plus besoin de chaperon. Regardez Madame de Sévigné, elle se baladait partout sans problème. Ou alors d'avoir, comme Madame de Lafayette, un mari qui accepte que sa femme vive la vie de salon à Paris et reste dans ses terres. Mais ça, il fallait trouver le mari qui acceptait cette espèce de séparation.
Sinon, la condition des femmes était assez dure à ce siècle-là. On n'imagine plus ce que c'était...
Bien sûr, il n'y avait pas de divorce, il y avait... la séparation de corps ne s'obtenait que pour des motifs extrêmement graves, la brutalité avérée du mari, et puis il y avait surtout ce poids des grossesses.
Pas le droit d'ouvrir un commerce à son nom, pas le droit de... Il y a tout un plan juridique
dans
qui
le
leur était
peuple,
exclu.
Dans le peuple, elle y est arrivée. Par exemple, il y a eu beaucoup de femmes imprimeurs.
Ah oui.
Oui. C'est ce qui est intéressant, soit souvent en effet elle reprenait, la veuve avait évidemment, l'idéal aussi c'était d'être veuve, parce qu'à ce moment-là vous pouviez avoir des commerces en votre nom, mais si le mari autorisait, vous pouviez, fallait-il encore que le mari autorise.
Est-ce que quand vous avez publié vos ouvrages, Madame Dulon, ça a fait avancer le débat, dans le sens où est-ce que des gens ont découvert un peu l'évolution de la condition des femmes, ou ça a pu faire évoluer un peu les esprits?
J'espère, je pense, parce que si vous voulez, mon livre n'était quand même pas un livre de revendications acharnées, comme certaines féministes le faisaient à l'époque d'une façon un peu... excessive, je pense à des Anglaises surtout, même un peu caricaturales à leur façon. Oui, moi j'ai essayé d'être plus équitable, de voir quand même les progrès qu'il y avait eu, en tout cas en France. Mon livre ne concernait que la France, et encore que l'Italie serait un pays très intéressant à étudier, parce qu'à cause de la fragmentation de l'Italie, il y a eu énormément de petites cours féminines, de princesses de petits pays qui avaient des cours autour d'elles et qui réunissaient des écrivains. Parce que naturellement, le grand intérêt de ces salons, c'est que ces femmes qui étaient, pour une raison ou pour une autre, veuvage ou autre, libres, pouvaient inviter des hommes sans problème. Et alors les hommes de lettres étaient ravis d'aller dans ce milieu où on les encensait, où on les écoutait, peut-être beaucoup plus que dans... En tout cas, oui, je ne peux même pas comparer aux universités, parce que ça n'existait pas sinon au plan religieux. Alors il y avait là un auditoire tout prêt pour les hommes, et où ils étaient ravis d'aller, les écrivains.
Si je peux me permettre, est-ce que vous faites une distinction à l'époque entre les pays donc qui vivent sous la religion catholique, enfin en ce qui concerne les femmes bien sûr, hein, et en particulier les cours féminines, les salons, et ceux comme l'Allemagne qui vivaient sous un régime protestant? Est-ce que ça a changé? Est-ce que le catholicisme, puisque vous parlez de religion tout à l'heure, a favorisé d'une manière ou d'une autre ces salons, cette prise de parole? Par rapport à l'Allemagne, c'est vrai que je ne connais pas du tout.
Ça, c'est en pleine discussion. Il y en a qui disent que le protestantisme en général a obligé les gens à lire, parce que le protestantisme est vraiment une... Enfin, il faut connaître les textes, peut-être beaucoup plus que dans le catholicisme. Alors, les réformés pensent qu'ils ont eu une sorte d'avance là-dessus. Mais sur le plan des mœurs, non. Les salons, c'est vraiment une invention française et italienne.
D'accord.
On ne trouve pas ça dans les pays du Nord, sauf dans des petites cours, mais surtout, je dirais, pour l'Allemagne au XVIIIe.
D'accord.
Pas au 17e. Au 18e, oui. Mais vous savez, ces petites cours allemandes du 18e, elles faisaient venir des auteurs français pour les enchanter, pour les distraire, pour leur parler. Parce qu'ils avaient plus l'habitude des femmes, peut-être, justement. Mais j'ajoute de moi-même quelque chose. Je reste quand même stupéfaite quand je relis des passages de Madame de Sévigné. Je me dis tout de même, on a beau savoir qu'elle était très intelligente, qu'elle a eu une famille plutôt libérale, qu'elle a été veuve très tôt, donc qu'elle a pu fréquenter qui elle a voulu. On reste stupéfaite de l'écriture, du style, de la culture de cette femme, de son écoute de la modernité. Vous me direz, c'est un cas, mais c'est quand même extraordinaire. Je crois pas qu'il y a l'équivalent à l'époque en Europe. Ce qui prouve que si on avait des capacités, on pouvait arriver à s'en sortir.
Oui.
Mais enfin, c'est un cas.
Et est-ce que vous pensez que ce mouvement donc de cours féminines, d'instruction féminine, n'a fait que s'amplifier tout au long du 18e ? En quoi vous trouvez que le 17e est spécifique sur la condition féminine par rapport au 16e et par rapport au 18e, puisqu'il est entre ces deux siècles ? Qu'est-ce qui en fait la spécificité pour les femmes ?
Alors, la spécificité, c'est qu'il a fait... Il a vraiment commencé l'effort. On ne peut pas dire qu'au XVIe, il y a une progression réelle de l'instruction des femmes.
D'accord.
Ça commence au XVIIe siècle, au mérite du XVIIe siècle. Il y a l'effort de l'Église pour l'enseignement des filles et les salons. Et alors au XVIIIe, eh bien, cette
ça
floraison
fait, bien sûr,
des salons qui a été vraiment une époque brillantissime. Et les femmes, là, on ne les compte plus, les femmes
bien
d'esprit
sûr.
Qui étaient capables d'écrire, de faire leur mémoire. Mais le mouvement, le déclencheur pour moi, c'est le 17e.
Le 17e, d'accord. Mais si vous deviez dater le début du mouvement féministe en tant que tel, vous le dateriez à quel moment ?
Ah, c'est difficile.
Est-ce qu'on peut parler de féminisme à l'époque ?
Non, le mot n'existait même pas. Il y a eu quelqu'un qui était la fille spirituelle de Montaigne, Mademoiselle de Gournay. C'est un personnage oublié. C'était une vieille fille. On s'est moqué d'elle. Mais elle a écrit des textes qui sont intéressants, justement, sur la condition de la femme, sur l'inégalité, les difficultés de la femme. Mais tout le monde se moquait d'elle. Elle vivait avec des chats. Mais Mademoiselle de Gournay mérite une mention.
C'est elle qui a renversé un peu le raisonnement en disant que c'est de la faute des hommes, finalement, que les femmes sont dans cette situation de...
Oui, non, enfin...
D'infériorité.
Je n'ai pas très bien compris
C'est bien Madame de Gournay qui a mené un raisonnement montrant que c'est de la faute des hommes...
Oui,
si
c'est
les femmes
ça, que les femmes avaient les mêmes capacités,
exactement.
Mais qu'on les avait tenues sous le boisseau.
Oui.
Raisonnement qui s'est amplifié au cours des siècles suivants.
C'est une des premières à le tenir, alors.
Ah, c'est une des premières, indéniablement. Mais je dirais presque que le 19e siècle a été, au contraire, un siècle un peu d'arrêt.
Ah, pourtant, c'est curieux parce que moi, j'ai, quand je pense au 19e siècle, en particulier au féminisme, j'ai quelques noms qui me viennent, comme Louise Michel, Flora Tristan, etc. Et j'ai pas ces noms-là ou ces références-là pour le 17e.
Non, vous les avez pas parce que ça prenait des formes quand même beaucoup plus étouffées. Il y avait pas, on ne brandissait pas des drapeaux, on ne brandissait pas des slogans.
Bien
mais
sûr.
Je veux dire, la bourgeoisie du 19e, j'ai l'impression que c'est ce qu'on pouvait imaginer de pire pour les femmes. Avec en plus cette hypocrisie. Encore une fois, il faudrait différencier les milieux. Je crois vraiment que la bourgeoisie du 19e, c'est ce qu'il y a eu de pire, il me semble.
Si nous sommes en compagnie de Claude Dulon, nous marquons une toute petite pause.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nous retrouvons Priscille Lafitte.
Madame Dulon, nous venons de parcourir plusieurs siècles d'histoire. Peut-être il est intéressant de revenir au XXe siècle, même si on passe très très vite le XVIIIe et le XIXe. Nous sommes très intéressés de savoir comment vous avez parcouru le XXe siècle en tant que femme. Il s'est passé beaucoup de choses pour les femmes au XXe siècle. Quel est pour vous peut-être l'élément qui vous a le plus marqué ?
Oh bah c'est le mouvement féministe, sûrement.
À quelle époque ?
Pas pris part, mais enfin je veux dire c'est l'évolution entre ma jeunesse qui s'est vécue encore dans des règles très strictes de la bourgeoisie française. Et puis l'éclosion du mouvement féministe, c'était quoi, vers les années 60 ?
Fin des années 60.
Oui, avec parfois des excès un petit peu ridicules. Mais c'est surtout l'évolution des mœurs pour des femmes de ma génération qui a été absolument stupéfiante.
Vous avez vécu, par exemple, l'époque des suffragettes ? Vous en avez fait partie ?
Oh, les suffragettes, c'est... Oh non, je sais quand même, les suffragettes, c'est 1900, je suis quand même pas née en 1900.
Oui, vous êtes née en 27, hein, c'est ça.
Oui,
donc vous avez...
oui les suffragettes, ben, le droit de vote,
le droit de vote
en 40, on l'a eu avec De Gaulle, oui.
Oui, ben, vous avez vécu toute une époque où vous n'aviez pas le droit de vote.
Mais ça, comme j'étais très jeune, j'ai pas fait, j'ai trouvé, j'étais contente d'avoir le droit de vote, mais ça m'a pas paru extraordinaire comme à des femmes plus âgées, si vous voulez. Mais c'était pas tellement ça qui m'intéressait.
Dans les années 30, il n'y avait pas de revendication pour obtenir le droit
de
suffrage.
C'est ce que je connais. Si, il y en a toujours eu. Il faut avouer que c'était absurde de ne pas donner le droit de vote aux femmes,
oui,
parce qu'en 1930, elles allaient au lycée, elles étaient aussi instruites que les hommes. Mais ça, c'est un problème que je connais mal, je veux dire. Moi, je me suis trouvé avec ça dans mon, pas dans mon berceau, mais j'ai voté. Mais c'est drôle d'ailleurs de penser que c'est un homme comme De Gaulle qui, par certains côtés, incarne un peu le 19e siècle,
oui,
qui est donné
ça. Paternaliste.
Oui, oui, oui. Mais ça, c'était les côtés extraordinaires du personnage, ce mélange de choses.
Oui.
Non, moi, ce que la différence la plus frappante avec ma jeunesse, elle est dans les mœurs. C'est ça qui est stupéfiant. La révolution, c'est la pilule.
Et est-ce que vous avez donc milité au mouvement féministe ?
Non, j'ai pas milité parce que j'aime pas militer. Je suis plutôt au fond timide, ça m'ennuie, j'aime pas marcher dans les rues en criant, j'aime pas... et puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de ridicule dans le militer. Non, j'aime pas militer. Alors j'ai jamais milité pour rien, ce qui m'a pas empêché d'avoir mes opinions et d'aider les gens que je voulais. Mais... je reconnais que la pilule a été un grand bienfait, parce que, bon, si on parle franchement, c'était horrible. Autrefois, elles craignent toujours d'être enceintes. On n'imagine pas que les femmes ont vécu comme ça si longtemps. Ce que je trouve un peu dommage maintenant, c'est justement peut-être qu'on ne tire pas un très bon parti de ces libertés qui ont été accordées aux femmes. Avec raison. Mais je trouve que peut-être il y a un excès dans l'autre sens.
C'est-à-dire, vous ?
Bah, c'est peut-être simplement parce que je suis une dame plus âgée, je suis un peu choquée qu'on... le droit à l'avortement, oui, c'est très bien, mais là, je deviens un peu hypocrite, j'aime pas tellement qu'on en parle, parce que ça me fait quand même de la peine, je pense au bébé, je peux pas m'empêcher, ça, c'est question d'âge.
Vous avez l'impression d'avoir accompagné, du coup, le mouvement féministe, ou d'avoir été... familière.
J'ai pas accompagné, j'ai été un témoin sympathisant.
Oui,
voilà.
Avoir été sympathisante jusqu'à quel moment ? Il y a eu un moment où vous vous êtes coupée ?
Non, ce que j'aime pas, c'est les manifestations publiques. Alors j'aime pas voir les femmes brandir dans la rue des panneaux avec le droit à l'avortement, etc. Ça m'agace. Mais ça, c'est une question de nature. Je suis comme ça pour tout. J'aime pas les manifestations extérieures. Mais j'approuve tout à fait cette espèce de libération des femmes.
Il y a un aspect que vous avez en tant qu'historienne, par exemple, vous avez gardé votre nom de jeune fille, ce qui se faisait pas trop à l'époque.
Ben c'est pas ça, c'est uniquement parce que mes éditeurs m'ont dit, écoutez, vous pouvez pas changer de nom, on vous connaît sous ce nom, votre nom Claude Dulon, écrivez sous le nom Claude Dulon. Et puis alors je dois dire, d'une certaine façon, j'avais épousé un homme plus âgé que moi, nettement plus âgé, Jean Saint-Denis, qui était tout à fait d'une autre génération. Et je me suis dit qu'au fond, je serais peut-être plus libre si je n'écrivais pas sous son nom à lui. Ça a joué.
Plus libre.
Oui. Et oui, parce que quand vous écrivez sous un nom, vous vous engagez d'une
Bien
certaine
sûr.
Façon. Alors, et comme il était dans la politique, j'ai pensé que c'était plus tranquille en gardant mon nom. J'en ai parlé avec lui d'ailleurs, il a été d'accord. Parce que justement, si je m'étais mis à écrire au temps du général de Gaulle des pamphlets violemment féministes, d'abord, ça aurait pu le gêner,
ça
lui.
Ça aurait pu nuire.
Aussi. Bien alors, sûr. On a été d'accord, sans difficulté, sur ce point.
Même si vous n'avez rien écrit de pamphlétaire.
Non, mais je sais pas, j'aimais mieux écrire sous mon nom. Puis les éditeurs ne voulaient pas que je change de nom, parce que ça déroute le lecteur.
Est-ce que pour vous, ça a été une façon aussi de vous marquer en tant que femme? C'était quelque chose à l'époque parce...
Pas tellement votre... pour le nom. J'ai hésité et puis je me suis dit que non, c'était vraiment une question d'opportunité. J'avais commencé comme ça, il n'y avait pas de raison de changer et mon mari était d'accord sur ce plan. Puis alors, par exemple, j'ai écrit un livre sur De Gaulle qui a eu, disons, beaucoup de succès, La vie quotidienne à l'Élysée, avant La vie quotidienne des femmes. Et j'étais beaucoup plus tranquille en écrivant sous mon nom que sous le nom de mon mari, qui était très engagé dans le mouvement gaulliste. C'était beaucoup plus libre. Tout le monde savait que c'était moi et qu'il était mon mari, mais j'étais quand même beaucoup plus libre.
Vous vous sentiez libre aussi dans un milieu d'hommes, dans le milieu universitaire et quand même... Les moins, mais a été très masculin.
Vous parlez de la vie universitaire?
Oui.
Ah ben ça, la vie universitaire, oui, c'est un passage intéressant. Parce que, d'abord, il faut savoir que j'ai été pensionnaire pendant 9 ans. Pour raisons familiales, parents divorcés, etc. Alors, accéder à la vie universitaire a été pour moi une libération fantastique. Surtout que j'ai fait une hypocagne. Je voulais faire l'école des chartes, mais à ce moment-là, c'était pas très organisé, et on faisait une hypocagne avec des cours d'histoire en plus.
Alors, c'est encore vrai actuellement.
C'est encore vrai.
Enfin, en tout cas, en cagne, il y a une préparation spécifique pour l'école des chartes, avec cours d'histoire en plus, histoire moderne et du Moyen Âge.
Ah bah écoutez, c'est une très bonne chose, parce que cette hypocagne que j'ai faite à Henri IV m'a été pour moi une année merveilleuse. D'abord, c'était beaucoup plus amusant d'être avec des garçons qui tous étaient intelligents et assez drôles. Et puis, des professeurs merveilleux. J'ai adoré cette année d'hypocagne. Et alors, les chartes... alors, je suis entrée aux chartes. Bon, j'ai été reçue, j'allais pas dire non. Et là, ça a été beaucoup moins drôle. Je dois dire que j'ai failli lâcher. Parce que c'était l'histoire au sens le plus rigide du mot. J'avais pas bien compris ça en choisissant ça. C'était pas des théories sur l'histoire, mais c'était chercher des sources, fouiller dans les archives, qui est évidemment la première tâche. Il n'y a pas d'histoire si on ne fouille pas dans les archives. Mais c'est affreusement ingrat de fouiller dans les archives, parce que vous pouvez travailler des mois sans rien trouver. Et à l'époque, en plus, les archives n'étaient pas très bien organisées. J'ai failli lâcher, et puis... J'avais une mère qui, elle, avait un peu souffert de sa condition de femme et qui m'a dit, écoute, quand on lâche quelque chose, on est une ratée. Tu as commencé ça, tu as l'air de réussir, ne lâche pas, il faut que tu aies un diplôme. Parce qu'elle avait très bien compris, elle s'est trouvée divorcée, sans beaucoup d'argent, et elle a vu combien c'était dur pour une femme de son temps, dans les années entre 30 et 40. Et ça, je lui en suis très reconnaissante. Elle a vu qu'un monde nouveau arrivait, qu'il fallait absolument être capable, il fallait avoir un diplôme et avoir un job.
Mais donc, l'histoire, c'est une vocation ou c'est une rencontre hasardeuse?
Oui.
Enfin, par hasard. Non, vous aviez envie de faire de l'histoire à la...
Eh bien, ça vient... D'abord, j'ai fait des études certainement plus agréables qu'aujourd'hui parce que les professeurs avaient du temps et les études secondaires et on pouvait parler aux professeurs après les cours, ce qui, paraît-il, ne se fait plus beaucoup. Et puis, on était beaucoup moins nombreux dans les classes, etc. Et il y avait un professeur d'histoire, j'aime bien rappeler son nom, qui s'appelait Mademoiselle Milox, qui était une femme absolument merveilleuse dans sa façon d'enseigner, très imagée. Et c'est elle, un jour, après le cours, qui m'a dit « Mais puisque vous aimez l'histoire, je devais être en troisième, pourquoi vous ne feriez pas l'école des chartes ?» Je ne savais même pas ce que c'était. Mais ça m'était resté, et j'ai dit « Bon, si elle m'a dit ça, c'est ce que je vais faire. »
Vous parliez du travail sur les archives tout à l'heure. Comment, par exemple, sur la vie quotidienne des femmes, qui sont des petits détails du quotidien, comment travailler sur les archives, justement, sur ces sujets-là?
Bon, alors, heureusement, pour la vie quotidienne des femmes, il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les sources littéraires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de l'époque qui ont écrit sur ce problème. Alors, vous avez déjà un fond, vous voyez un peu comment les choses se passaient. Et puis, le travail d'archive, ben, il est affreusement long. Par exemple, il faut lire, par exemple, il y a eu des procès en annulation à l'époque. Des procès, il y a eu des séparations. Ben, il faut plonger là-dedans pour comprendre un peu comment les choses se passaient. Et puis, il faut lire beaucoup. Non, c'était pas le livre le plus dur au point de vue archive, parce qu'heureusement, il y avait des textes imprimés, il y avait tous les romans des femmes de cette époque. Mademoiselle de Scudéry, Madame de Lafayette, on avait de l'imprimé, là. On avait de l'imprimé.
Oui, mais pour les femmes de la société...
Ah bah, par exemple, pour Marie Mancini, je le cite, parce que j'ai failli lâcher au début le personnage, parce que le peu que j'en savais me prouvait qu'elle n'était pas intéressante. Et puis, je me suis rendu compte, ça, c'est, il faut être chartiste pour ça, qu'au fond, personne n'avait regardé les archives en Italie. Parce qu'elle s'est mariée, c'était une nièce de Mazarin, elle s'est mariée, elle a épousé le prince Colonna, et ça a marché au plus mal. Et je me suis dit, mais il faut que je voie ces archives Colonna, parce que tout ce qui a été fait d'après les archives françaises. Alors là, ça a été le bonheur d'une vie de chartiste. Il y avait 5 cartons, j'ai obtenu une autorisation, il y avait 5 cartons de documents inédits. Et j'ai pu reconstruire d'elle une image, hélas, qui n'est pas tellement à son honneur, mais qui est très intéressante.
Est-ce que vous aviez quand même l'impression, dans les documents historiques, qu'il y avait beaucoup de non-dits sur les femmes, des choses implicites ?
Ah oui, naturellement, c'est pour ça qu'il faut, voir... Il y a beaucoup de non-dits, parce que les correspondances des femmes, ça ne commence qu'avec le 17e, elle-même, elle savait guère écrire avant... Mais là, c'est pour ça que j'ai parlé des procès, c'est très instructif les procès. Là, vous avez des archives. Par exemple, il y avait une chose très curieuse au XVIIe siècle. Les femmes disaient « je veux me séparer de mon mari, il est incapable de remplir son devoir conjugal », au sens le plus précis du mot. Et imaginez qu'il y avait une épreuve publique qui s'appelait le congrès, où le mari devait... faire la preuve qu'il était capable de remplir son devoir conjugal. Et généralement, cette épreuve tournait au désavantage du mari, parce que le malheureux, se voyant entouré de médecins et de juges, était évidemment incapable de remplir son devoir conjugal.
Et ça pouvait donc être les raisons d'un divorce, en tout cas d'annulation d'un mariage.
Ça pouvait être une annulation.
D'accord.
Alors à ce moment-là, vous étiez tranquille, vous pouviez épouser quelqu'un d'autre.
Les femmes avaient le droit de demander le divorce.
Non. Non, pas le divorce.
Il n'y avait pas le divorce.
On pouvait se séparer de son mari s'il était d'accord, comme l'ont fait beaucoup de femmes, mais on restait mariés. C'était une séparation de bonne entente, si vous voulez. Ou on pouvait obtenir l'annulation s'il y avait vraiment une raison très forte, comme l'impuissance du mari.
Quelles étaient les autres raisons pour obtenir une annulation ?
Oh, que le mariage n'ait pas été célébré dans les formes, certaines choses comme ça, qu'on découvre qu'il fallait une raison très forte.
Mais les violences conjugales, par exemple,
les violences conjugales, mais il fallait qu'elles soient fortes. Ah si, la violence conjugale était une raison d'annulation, mais là encore, il fallait que la femme soit aidée, appuyée pour
Bien
prouver
sûr.
Tout ça. Parce que il y avait des maris, surtout dans le fond des provinces, qui, vous savez, quand vous habitiez un vieux château en province, c'était dur d'aller faire un procès en annulation. Il fallait avoir une famille qui vous soutienne beaucoup. Alors là encore, les femmes instruites avaient de l'avantage
Bien
sur
sûr.
Les autres.
Évidemment. Est-ce que les femmes avaient le même poids juridiquement ? Leur parole avait le même poids que ce
Non, elles n'avaient pas le même poids. Non, non. Non, ça ne s'est arrangé que très tardivement. Oui, elles avaient le droit de témoigner, mais... Et puis, il fallait du courage pour aller témoigner en justice pour une femme. Il y avait le poids de la société, c'est ça.
Oui, dans les petits
villages. Mais alors, en revanche, quand vous étiez veuve et que vous aviez des amants, plus personne ne trouvait rien à dire. C'était parce que là, vous pouviez faire ce que vous voulez.
Oui, parce que le remariage, de toute façon, des...
Madame de Sévigné a été demandée en mariage par quelqu'un de très chic, je ne sais plus que c'était, un duc, je crois, et elle a refusé en disant qu'après tout, elle était tellement bien dans son état de veuve qu'elle n'avait pas du tout envie de se remarier.
Nous marquons une pause, on se retrouve tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie. Académie.
Nous sommes en compagnie donc de Madame Claude Dulon, de Laurence Akache, et nous sommes repartis au XVIIe siècle. Nous avions refait le saut de quelques siècles pour parler toujours de la condition des femmes, évidemment. Laurence ?
Oui, effectivement, on est reparti au XVIIe parce que c'est moi, je connais beaucoup plus le XXe que le XVIIe, mais c'est tellement intéressant de voir les différences. Donc moi, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on trouve au XVIIe des traités de médecins ou autres qui parlent d'une condition, enfin d'une nature féminine différente, sujette aux passions, aux émotions
Oui, on en trouve encore. Moins qu'au Moyen-Âge ou au XVIe siècle, mais on en trouve encore.
Est-ce qu'il y a un discours médical là-dessus ?
Je ne dirais pas qu'il y a un discours médical, parce qu'il y a quand même des variantes.
Bien sûr.
Mais on trouve des traités qui, en effet, montrent que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme, pour toutes les raisons que vous dites.
Un corps inaccompli
Non, mais que son tempérament l'empêche d'être l'égale de l'homme, oui, les possédés, tenez, c'est un cas très intéressant qui s'explique par mille choses. Mais enfin, il y a eu des épidémies de possession ou de sorcellerie dans certains pays, notamment le Pays basque. Et ça a été beaucoup et bien étudié, d'ailleurs, ça. Alors là, il y avait quelques hystériques et un phénomène d'entraînement collectif qui était posé aussi, qui s'explique aussi par la misère de certaines régions, par les excès de certains prêtres. Je crois, oui, s'il ne faut pas oublier la sorcellerie, qui est certainement qui doit être rangée dans l'histoire des femmes. Car il n'y avait pas tellement d'hommes sorciers, c'était les femmes toujours.
Oui, et c'est effectivement, on expliquait donc l'hystérie par la possession démoniaque.
Oui, absolument.
Certaines femmes sorcières étaient sorcières parce qu'elles étaient belles. Si...
Pas nécessairement, non, pas nécessairement. Oui, la beauté était considérée par les théologiens comme un appât dangereux, mais pas au point de dire que c'était un appât du diable, c'était une tentation. Mais en revanche, l'hystérie, oui, était considérée comme une possession démoniaque.
Donc jusqu'à Freud, vous croyez ?
Oh, je crois pas. Enfin, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé au début du 19e avant Freud, mais enfin, il me semble que Freud a certainement joué un rôle très important, mais je crois quand même que la médecine a évolué. Il y a eu des expériences avant Freud, non ?
Et les femmes qui étaient sur le marché, qui avaient...
Attention à ce que vous dites
parce... Ah oui, sur le marché, c'est vrai que c'est ambigu.
Sur le marché, parce qui vendaient des légumes.
Ça aussi, c'est
une catégorie. Ah oui, on a parlé de la prostitution d'ailleurs, c'est vrai. Alors
oui,
que...
une catégorie. Oui.
Elle existait d'ailleurs, la prostitution Enfin, comment est-ce qu'elle existait? Elle était réglementée?
Elle existait énormément, bien sûr. Elle était... Bah, naturellement, elle était réglementée, mais vous pensez, allez donc les trouver, aller donc les saisir. Et puis il y avait des, si vous permettez l'expression, il y avait des mères maquerelles. Les filles pauvres, hélas, tombaient très souvent dans la prostitution. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier de dire. Vous savez, il y avait une espèce de crèche Notre-Dame où on pouvait déposer les enfants la nuit. Et c'était les malheureuses, justement. C'était ou des prostituées ou des filles trop pauvres. Et l'Église le savait bien, puisque justement, on leur donnait le moyen d'abandonner l'enfant de façon telle que peut-être il soit sauvé.
C'était de la prostitution de rue, pas de la prostitution en maison close.
Si, il y avait des maisons connues, mais il y avait la prostitution de rue. Dans les grandes crises frumentaires, comme disent les historiens, c'est-à-dire quand il y avait une disette ou autre, la prostitution augmentait, bien entendu.
Alors, revenons au marché, mais cette fois-ci au marché de légumes.
Marché des légumes.
Alors
là, c'est autre chose.
Est-ce que les femmes étaient considérées comme historiques, comme hystériques, pardon, pas comme historiques? Hystérique, lorsqu'elles essayaient de prendre les choses en main et de prendre leurs conditions de femme en main.
Comment c'était vécu ? C'était autre chose, ça. Elles étaient considérées comme dangereuses, mais c'était pas la même chose. Puis il faut bien voir la séparation des milieux. Les milieux dont vous parlez, nous disons les marchandes, les femmes à l'étal dans les rues.
Est-ce qu'elles avaient le droit d'être commerçantes, de vendre
sur les marchés ? Absolument. Il y avait certains métiers qui étaient colonisés par les femmes. Souvent c'était par couple d'ailleurs, mais les femmes pouvaient être marchandes, oui, il y avait d'abord des métiers qui leur étaient réservés, les lingères, il y avait que des femmes, il y avait tout ce qui touchait à la couture ou autre était réservé aux femmes. Là il y avait, j'ai plus la liste dans la tête, mais il y avait des métiers où elles pouvaient être maîtresses, comme on disait. Mais oui, beaucoup d'auteurs parlent du langage et de la puissance d'expression des femmes, des marchandes, parce que c'était typique, les poissonnières, l'expression n'est pas venue de rien.
C'est vrai qu'une femme qui a une forte tête, on dit c'est une poissonnière.
Mais ça vient de là, parce que celles-là, vous pensez, quand elles avaient été chercher la marée à l'aube et qu'elles arrivaient sur leur âne avec leur poisson, il fallait le vendre. Elles étaient réputées pour leur argot, leur sang-froid, et elles suscitaient des émeutes. Ah oui, c'était de la population remuante, ce qui ne veut pas dire forcément prostitution. Ça, c'est pas forcément, les deux ne vont pas. D'ailleurs, c'est souvent pas des très jolies femmes qui les pauvres vendaient sur les marchés.
Est-ce que pour autant elles portaient la culotte par exemple dans les foyers? Est-ce qu'il y avait une forme de revendication d'autonomie des femmes
dans ces milieux populaires? Revendication, non. Elles prenaient l'autorité si elles étaient plus malines que le mari, et le mari, que vous vouliez qu'il fasse, il n'avait pas de théoricien pour le défendre. Il faut totalement séparer la population des campagnes de la population des villes, je crois, quand on parle des femmes à ces époques-là.
Est-ce que certaines en sont venues à tenir des discours sur les femmes?
Mais elles savaient, pas les femmes du peuple, d'abord la plupart ne savaient pas lire, encore moins écrire.
Mais tenir
un discours, il n'y a pas eu de littérature venant des femmes, pas avant le 17e, non. Elles n'étaient pas capables, elles n'avaient pas été à l'école.
Bien sûr. Ou tenir un discours oral sur les marchés de...
Non, on ne peut pas appeler ça un discours. Non, c'était les invectives, on secouait les gens. C'était un langage certainement très amusant, d'après ce qu'on en sait, très fleuri, mais... Non, il n'y avait pas, si vous voulez, c'est pas comme les orateurs à Hyde Park qui se mettent à faire des discours sur telle salle, n'en étaient pas capables. Mais c'était des maîtresses femmes. Oui, oui, l'expression poissonnière dit bien ce qu'elle veut dire.
Alors, pour revenir à la question que je vous ai posée au début, donc, à partir de quand vous dateriez un discours féministe, l'émergence d'une conscience et d'un discours féministe? Parce que dans ma tête, ce serait Olympe de Gouges. Est-ce que c'est déjà avant? Est-ce qu'il y a une conscience, justement, la production d'un discours?
Non, avant, non. Je crois pas.
Donc vous diriez fin
du
18e.
Ah non, mais avant Olympe de Gouges, quand même. Oui, Olympe de Gouges, quelles sont les dates exactes d'Olympe de Gouges?
Je ne vais pas dire des bêtises. C'est la Révolution française. Elle propose une déclaration des droits de la femme.
Il y a eu bien avant Olympe de Gouges. Ah non, personne n'a proposé une déclaration des droits de la femme.
Un discours construit sur les femmes. Il n'y a plus simplement une revendication de liberté individuelle, mais une conscience collective, une solidarité entre les conditions... respective
non,
des femmes.
Je ne crois pas. Non, en tout cas, il y a eu, oui, des discours pour les femmes, mais je ne crois pas qu'il y ait une revendication d'égalité citoyenne, vous voulez. Ça, voilà. C'est l'apport de la Révolution, je crois.
D'accord.
Non, il n'y a pas eu... Dans ce style-là, non. Il y a eu beaucoup de révolte individuelle, les femmes qui pouvaient l'ont exprimée, elles ont obtenu quelques progrès. Mais effectivement, c'est la Révolution qui a tout secoué.
Nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission et je vous propose à vous, Madame Claude Dulon, de poser des questions à Laurence. Est-ce que vous aurez des questions sur comment elle, en tant que jeune, elle vit le début, fin du XXe siècle, début de ce XXIe?
Justement, je pourrais lui demander si elle s'estime heureuse de ce qui a été acquis pour les femmes ou si elle considère encore que c'est très difficile, qu'il y a toujours un peu un choix contre les femmes. Moi, pardon de parler de moi, mais je sais que quand j'ai commencé à chercher des emplois, on m'a dit, par exemple, c'était il y a longtemps, on n'aime pas tellement prendre des jeunes filles parce que ça peut mettre la bisbille dans la maison. Vous voyez, est-ce que ça existe encore, ça?
Alors, qu'il y ait eu des acquis et que nous, la jeune génération, on puisse en profiter, c'est indéniable. C'est évident, je veux dire, au niveau effectivement de la contraception, au niveau des études, au niveau du choix du métier, au niveau donc de choisir sa maternité, ça c'est sûr. Qu'il reste des résistances et que, enfin, après ça c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais qu'être femme aujourd'hui ce soit plus compliqué qu'être un homme, en tout cas dans les milieux, je dirais, qui concerne tout ce qui est public, que ce soit l'espace public, que ce soit le politique, ça reste. Au sein du privé, enfin, au sein de la sphère domestique, il y a encore, à mon avis, des difficultés, mais qui sont moindres que celles qu'on avait rencontrées sur le rôle du père, le rôle de la mère. Il y a plus d'équité entre la répartition des tâches. Enfin, le problème, c'est que là, je pourrais parler beaucoup plus longtemps.
Il y a une chose qui doit rester difficile quand même, si on veut fonder un foyer, c'est le travail des femmes. Ça, il faut au moins une santé de fer, première condition.
À concilier maternité et travail, oui, ça reste une grande difficulté. Mais je vous dis, il y a des évolutions, puisqu'il y a un congé paternité, bon, qui reste évidemment pas souvent choisi par les hommes, mais qui est là, qui existe. Les jeunes pères s'occupent quand même beaucoup plus de leurs enfants qu'il y a 30 ans.
Est-ce que je peux poser une question, justement?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme réforme vraiment très typique à vos yeux? Qu'est-ce qui a été le plus typique, disons, dans les 20 dernières années? Qu'est-ce qui a amélioré le plus la condition de la femme?
Dans les 20 dernières années...
Dans sa vie privée, je veux dire. Oui, vous avez dit la liberté sexuelle.
Donc ça, c'est à peu près ce qui date du mouvement des années 70. Effectivement, la liberté sexuelle, le choix de choisir sa maternité, etc.
Et est-ce que vous considérez que les hommes ont évolué?
Oui. Pas forcément. Alors justement, le problème, c'est que on parle de crise de la masculinité. Alors non, c'est vrai, on en parle. Les hommes ont évolué, évidemment, mais ça va pas sans poser de problèmes. Je pense qu'il y a vraiment à écouter la parole des hommes aussi, que les féministes aujourd'hui doivent, parce que dans les années 70, il y avait la non-mixité dans le mouvement. Et je pense qu'aujourd'hui, on aurait tout intérêt à créer des mouvements mixtes d'échange entre les souhaits d'un homme, les souhaits d'une femme qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais effectivement, les hommes ont énormément changé.
Ils ont changé.
Ah oui, je pense.
Tant mieux.
Pas tous, bien évidemment. Mais bien sûr, ça a changé. Ça a changé plein de choses.
Dans tous les milieux, vous pensez? Dans les milieux, par exemple, très pauvres, je dirais, il n'y a pas encore cette... Dans les milieux paysans, non, probablement.
Oh, dans le milieu paysan, le problème, c'est qu'effectivement, j'évolue dans un milieu plutôt lettré.
Et
donc,
oui.
Je suis pas habilitée à parler pour les paysans ou pour les milieux plus populaires, mais même,
disons,
j'ai l'impression aussi dans les milieux.
Moi, j'aimerais juste vous retourner très rapidement la question, Madame Dulon. Qu'est-ce qui, d'après vous, reste à faire pour les femmes?
C'est pour ça que je posais un peu la question. Je voulais savoir avant quels sont les blocages actuels. Moi, je suis en dehors du circuit maintenant. Je fais ce que je veux, je suis seule, je travaille à mon aise, j'ai pas de problème personnellement.
À l'Académie, vous êtes dans un milieu très masculin.
Eh bien, l'Académie est très agréable. Alors, moi, je suis un peu vieux jeu et ce que je trouve très agréable à l'Académie, c'est que je fréquente des hommes. Mais c'est pour une autre raison, c'est parce que la classe bourgeoise à laquelle j'appartiens, j'ai toujours trouvé que les femmes étaient un peu ennuyeuses. Je m'y sentais pas tellement à l'aise. J'avais l'air un peu dans ma génération d'un phénomène parce que j'avais fait des études. Et j'aime tellement mieux passer mon lundi avec mes confrères de l'Académie et même les voir en dehors que d'aller dans des réceptions. J'aime pas tellement la compagnie des femmes. Hein, ouais.
Et dans la société en général, vous trouvez qu'il y a encore des choses à obtenir pour les femmes?
Oui, mais je suis tellement maintenant dans une situation privilégiée, justement en étant ici, en voyant des hommes qui tous sont intelligents et autres, que je reconnais que je m'enferme un peu dans ce milieu en me disant quelle chance je peux jeter les autres milieux qui m'ennuient. Alors, je reconnais que j'ai beaucoup de chance. Oui, il y a certainement, bien sûr qu'il y a des choses à faire. Mais moi, je me considère comme privilégiée. Et je me dis souvent, alors, il y a un problème, c'est la vieillesse. Et je me dis souvent, qu'est-ce que je ferais de ma vieillesse si je n'avais pas fait d'études et si j'avais pas l'Académie? Ça, c'est un problème. On parle des problèmes de la jeunesse, mais le problème de la vieillesse, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les femmes qui vivent maintenant beaucoup plus longtemps?
Oui, qui n'ont pas forcément eu la chance de faire beaucoup d'études ou de...
Jouer au bridge.
Il y a beaucoup de grand-mères qui s'occupent de leurs petits-enfants. Je ne sais pas si vous en avez.
J'en ai pas, alors le problème se pose pas. Oui, ça certainement, au moins c'est la chose la plus agréable.
Ouais. Mais arrive maintenant une génération de femmes justement qui ont connu autre chose et qui vont peut-être justement révolutionner un peu la vieillesse féminine.
Ah ben j'espère, parce que moi s'il fallait que je vive comme certaines femmes que j'ai connues, c'est vraiment pour moi, c'est l'ennui épouvantable, la vie de... disons, des bourgeois aisés. C'est l'ennui, c'est un cauchemar pour moi, tellement ça m'ennuie.
Merci beaucoup, Madame Claude Dulon, pour votre dynamisme, pour votre présence.
Je ne veux pas les vexer.
Merci beaucoup à Laurence aussi d'être venue.
Merci à vous.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission. À une prochaine fois.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.